C'est incroyable les personnes qui vont rouler dans un modèle de voiture parce que leur mère ou leur père avait ce modèle de voiture ou parce que leur meilleur ami leur a dit que c'était une bonne voiture. Et si cette meilleure amie a dit que cette voiture était une bonne voiture, c'est peut-être parce que sa mère et son père roulaient dans une bonne voiture. Et on se rend compte qu'il y a une espèce d'inertie complète et générationnelle de vérités qui sont complètement fausses. Et c'est hyper compliqué. Enfin, c'est hyper compliqué. Il faut être courageux pour remettre en cause des vérités qu'on pensait vraies, mais qui ne sont pas vraies, en fait.
Salut Mathieu, je te remercie de participer à cette vidéo, ça me fait super plaisir.
Salut Tony, merci à toi de m'avoir invité et de vouloir m'écouter, ça me fait toujours plaisir.
Alors, tu m'as dit que tu parlais beaucoup, et moi c'est super, c'est ce que je recherche. J'aimerais bien en apprendre un peu sur toi, donc est-ce que tu pourrais te présenter un peu et raconter ce que tu fais, ton parcours, et parler un peu de ton activité?
Ok, alors du coup, je m'appelle Mathieu Vénis. Sur Internet, je suis arrivé en 2012, donc ça fait longtemps. J'ai créé un site de développement personnel qui s'appelle Penser et Agir, qui est aujourd'hui le plus gros blog de développement personnel en francophonie, donc dans le monde qui parle français. Pour donner des chiffres, ça fait environ 400 000 visiteurs par mois, donc ce qui est très gros pour un trafic de blog. Et après, sur différents réseaux sociaux, c'est assez connu. Alors, ça dépend des réseaux. Majoritairement sur Pinterest, où il y a, je crois qu'on approche des 50 000 abonnés au moment où je fais, je te le dis là.
Oui, quand même.
On va les dépasser d'ici quelques jours, je crois. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que je suis arrivé à la psychologie et qu'est-ce qui a fait que mon site a su se différencier des autres? C'est parce qu'à la base, je suis un ingénieur, donc j'étais diplômé, j'ai eu un bac plus 5 en informatique en 2009. Et de 2009 à 2013, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur en ingénierie des modèles. C'est un mot un peu barbare. En gros, c'est des personnes qui essayent de résoudre des problèmes dits complexes. Et par complexe, ça veut dire pour lesquels il n'existe pas encore de solution.
D'accord.
Donc typiquement, j'ai travaillé pour des très grosses boîtes comme Thales, qui est dans l'aérospatial, Areva, qui est dans le nucléaire, Alstom, qui est dans tout ce qui va être aiguillage de train. Et c'est un problème complexe aujourd'hui. L'optimisation du métro de Paris, par exemple, c'est l'un des plus gros problèmes aujourd'hui. Et en fait, mon postulat de départ, quand j'ai créé Penser Agir, c'est de me dire, en tant qu'ingénieur en ingénierie des modèles, tu as appris des méthodes qui te permettent de simplifier à outrance des problèmes complexes et de trouver des solutions. En faisant des schémas, en faisant des méthodes simples, en apprenant à tester tout ça et à les redescendre dans le cœur de métier. Mais pourtant, quand je faisais de l'ingénierie pour l'aérospatiale, moi, je n'étais pas à la base formé par l'aérospatiale. C'est-à-dire qu'on m'avait appris à étudier la problématique, à l'abstraire, donc à la transformer en concept très simple que je pouvais comprendre, des modèles mathématiques, trouver des solutions et tester dans la réalité. Et je me suis dit, la psychologie, ce n'est pas si différent que ça. Alors, on me prend pour un fou souvent quand je dis ça, mais finalement, si tout le monde se pose la question, comment être heureux, comment réussir, comment avoir le droit au bonheur, comment ne pas avoir de regrets à la fin de sa vie, ça veut dire que d'une certaine manière, ce sont aussi des problèmes complexes et qu'on doit pouvoir trouver un modèle de raisonnement générique, un schéma, une méthode qui permettrait de dire, voilà, si aujourd'hui tu as envie de réussir, eh bien, il y a une méthode pour le faire et j'ai essayé de la trouver. Et donc, ça fait depuis 2012 que je développe cette méthode-là. Et puis bien avant, ça fait depuis mes 17 ans, j'en ai 33 aujourd'hui, depuis mes 17 ans que je m'intéresse à la psychologie et au développement personnel. Et en mêlant tout ça ensemble, ça a donné Penser Agir, donc le site qui a su se distinguer. Et aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 3 000 personnes sur tout ce qui va être changement de vie. Et je t'en parlais juste avant, je viens de sortir aussi un livre, donc ouais, on le voit à la caméra, voilà, qui s'appelle C'est décidé, je change de vie, qui n'est pas auto-édité. Donc je lutte là-dessus parce qu'on voit beaucoup de gens sortir des livres en auto-édition, qui écrivent c'est un PDF et qu'ils.
Ouais.
Et puis l'imprime, quoi, en gros. Et non, ça c'est donc c'est édité par le groupe Hachette. Donc c'est les éditions d'Uno et c'est le groupe Hachette au-dessus. Donc c'est une forme de reconnaissance. J'en suis vraiment très fier d'avoir fait ça. Et dans ce livre-là, qui fait 200 pages à peu près, j'ai mis toute cette approche que je développe depuis 2012. Voilà.
D'accord. Et est-ce que réussir à créer le modèle, ça, c'est ta partie à toi, mais est-ce que les gens acceptent de le suivre, arrivent à le mettre en place?
Ouais,
Est-ce qu'elle
alors
n'est
bien
pas là
sûr,
la
bah alors.
complexité de la chose, plus que de décrire le modèle, réussir à faire en sorte que les gens le suivent?
Ouais. Alors, écrire le modèle, c'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il faut être passionné, il faut vraiment chercher pendant des années, tester, etc., voir ce qui marche. Après, le simplifier à outrance, ça, c'est un truc que j'aime faire. Et c'est vraiment mes compétences d'ingénieur qui m'ont permis de faire ça. Et la meilleure manière de te le montrer, c'est de te montrer à l'intérieur du livre, en fait. Je pense que tu as vu ça sur Instagram parce que je sais que tu suis. Mais tu vois, le sommaire, c'est des dessins. C'est comme un jeu de société, en fait. Et tu sais, on entend souvent, la vie est un jeu. Et moi, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est de dire, bah oui, à partir du moment où moi, j'ai la connaissance du modèle, on va dire, ou du schéma pour réussir, eh bien, je peux le simplifier et en faire un jeu et que les gens aient juste à répondre à certaines questions, qu'ils aient à la fois la vue globale du chemin, tu vois. Par exemple, dans le sommaire, on va leur dire, voilà, il faut qu'au début, tu doutes, c'est-à-dire que tu commences à te dire, pourquoi est-ce que je pense comme ça? Quelles sont les influences de ma famille? Quelle est l'influence de la façon dont j'ai été éduqué par ma famille et par l'école? Pourquoi est-ce que j'ai certaines valeurs en ayant ce niveau social, c'est-à-dire ce niveau de réussite financière? Un aristocrate multimilliardaire pense pas pareil que quelqu'un qui est au RSA ou qui est un médecin, tout simplement. Il y a des niveaux de revenus qui font qu'on a des croyances sur la vie qui sont différentes les uns des autres. Et le meilleur moyen de reprendre possession de son avis, en fait, de sa vie plutôt, c'est de prendre conscience de tous ces mécanismes qui sont inconscients et de les faire remonter à l'état conscient pour se dire, OK, si je pense que ça c'est mal, c'est parce que mon père lui-même pense que ça c'est mal. Et donc dans mon éducation, ça m'a permis de faire ça. Et donc tu vois, ça permet déjà de prendre conscience de ça. Et après, tu arrives à la zone de la pensée où tu dis, pourquoi est-ce que je suis unique dans ce monde? La conceptualisation, je vais faire un projet. L'action, comment est-ce que je vais passer à l'action, remettre en cause l'échec, etc. La persévérance, comment est-ce que je trouve des mentors et m'entourer? Et l'alignement, comment est-ce que cette réussite va me faire changer la perception que j'ai de la vie et de, alors certains diront Dieu, ou du hasard, de la chance, etc. Est-ce que c'est vraiment de la chance ou est-ce que ça peut se provoquer? Donc tout le modèle global, quand j'en parle comme ça, c'est complexe si on va le décortiquer point par point. Mais si on dit à la personne, la première chose que tu dois te demander, c'est quelle est l'influence de ta famille ou de tes parents sur toi, ou quelle est l'influence des études que tu as suivies sur ce que tu es aujourd'hui? Eh bien, c'est juste quelques exercices à faire qui permettent d'avancer. Donc, la clé pour amener les gens vers un processus complexe, c'est de leur montrer juste l'étape qu'ils ont besoin de voir, de la simplifier au maximum, et de toujours leur rappeler que c'est dans un grand processus et qu'ils aient la vision loin sans comprendre comment ça va se passer. Tu vois, il y a toujours cette dimension. Et c'est pareil pour l'entrepreneur. L'entrepreneur, il a sa vision loin, se dire, waouh, c'est exactement ça que je veux faire. Moi, si je te parle de ma vision, c'est complètement fou, tu vois. Je vois déjà des marques de vêtements, je vois des compléments alimentaires, je vois des magazines de psychologie, plusieurs livres, etc. Et ensuite, la prochaine étape qu'il faut suivre, c'est pas essayer de décomposer tout ce que je viens de dire, mais justement, moi, la prochaine étape, c'est créer ma prochaine conférence en ligne où je vais faire une nouvelle offre, tu vois.
C'est
Et
justement
comme
ce que
ça,
j'allais te dire en plus. J'allais justement te parler ce rapprochement-là, du fait que la façon dont tu as découpé le bouquin pour qu'on approche de la complexité, c'est ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat en fait. Rien que ça, rien que ce principe-là, c'est t'apporte déjà une vision, rien qu'avec la construction du livre.
c'est ça, c'est de toute façon, si tu veux trouver la vérité, on va dire quel que soit le domaine, on peut sortir de la psychologie ou de l'entrepreneuriat, si tu veux trouver une vérité vraie, vraiment, c'est de trouver un concept qui s'applique à plusieurs endroits. Donc, ce truc-là, d'avoir la vision et de revenir toujours à l'étape simple, ça s'applique dans l'entrepreneuriat, dans la psychologie, mais ça s'applique aussi dans la séduction, si tu veux séduire des filles, ça s'applique dans le sport, si tu veux devenir un maître en arts martiaux. Tu dois avoir la vision, tu dois fantasmer sur, je sais pas, Jet Li, Jackie Chan, ou je sais pas, Jean-Claude Van Damme, n'importe qui, si tu fais du karaté ou autre. Mais après, tu dois aussi te dire, ah ok, quelle école je choisis qui va me correspondre et quel prof je vais choisir et quand est-ce que je vais m'entraîner? C'était mardi, mercredi, tu vois, des trucs super simples. Comment est-ce que je vais faire rentrer ma vision dans ma semaine, la semaine prochaine, et aller commencer à faire du judo, du karaté ou du kung-fu? Et ce truc-là, la vision, en fait, c'est pour ça que j'ai appelé mon site Penser et Agir, c'est parce que c'est la base de tout. Tu as toujours l'imaginaire, et puis ensuite, tu as le réel. Et bah, Walt Disney avait des citations qui étaient très inspirantes là-dessus, je sais plus ce qu'il disait, mais il disait qu'on pouvait que tout ce que l'esprit pouvait imaginer, on pouvait le créer. Tu as Napoléon Hill aussi qui a dit ça, tu as plein de gens qui ont dit ça. Si tu arrives à chaque fois à visualiser loin et revenir dans la réalité, et que tu fais une alternance comme ça, dans ce cas-là, tu as trouvé le secret du succès, tu vois. C'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. c'est difficile d'accepter de faire ça.
Voilà,
Parce
c'est
que
ça.
si t'es toujours trop loin, t'es perché. Ça, c'est le mec, il a tout réussi dans sa vie, mais en fait, il est toujours au RSA à faire 45 heures par semaine ou même plus, et à prendre 2 heures de transport tous les matins et tous les soirs. Il y a un souci, tu vois. Le mec est perché. Ou alors, t'as l'autre qui est ultra réaliste et qui, du coup, passe jamais à l'action parce qu'il se dit, ouais, mais c'est la crise, c'est compliqué, etc. Il est hyper pessimiste parce qu'il va suivre toutes les actualités au jour le jour. Mais celui qui arrive à se projeter et à rêver et à revenir dans la réalité pour se dire, OK, Coco, t'es pas encore là-bas, donc maintenant on va prendre la vraie vie et on va essayer de trouver les premières actions pour passer à l'action, bah là, t'avances tout le temps après.
Ouais, voilà, c'est réussir à réduire l'écart justement entre la vision et la réalité. C'est ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le faire parce que ils vont tout de suite quand ils vont regarder des personnes qui ont du succès, qui ont réussi, ils vont tout de suite se comparer à l'état qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire que les personnes ont beaucoup de succès, elles ont réussi, mais je veux dire, elles ont commencé comme nous. Enfin, elles aussi, elles ont parcouru tout ce chemin.
Bien sûr.
Et ça, il y a beaucoup de monde qui ne s'en rendent pas compte et qui ne se rendent pas compte que c'est possible. Et que oui, faut faire des petits pas tous les jours.
De toute façon, la seule personne à qui on doit se comparer, c'est soi-même dans le passé.
Ouais.
Et les autres, on ne doit jamais se comparer à eux. On doit toujours faire en sorte qu'ils nous inspirent. C'est tout. L'inspiration, il n'y a aucune notion de comparaison. C'est juste, waouh, ce mec est génial. Ou cette femme est géniale. Après, on se compare toujours à qui on était avant. Et si on a régressé, c'est qu'il y a un problème. Si on a progressé, c'est qu'on va dans le bon sens. Mais se comparer aux autres, c'est une grosse connerie.
Oui,
Vraiment.
mais c'est ce qui fait la société d'aujourd'hui et c'est ce qui fait justement que les gens ne passent pas à l'action. Ils se comparent aux autres et ils essayent d'avoir une bonne image auprès des gens qui vont rien changer dans leur vie. C'est ça le souci.
Ouais, mais alors tu sais que quand tu te compares aux autres, généralement, c'est que tu. Enfin, moi, ce que j'ai analysé de ça,
C'est de l'insécurité qu'il y a derrière.
ouais, c'est de l'insécurité et c'est encore plus profond que ça, c'est que tu t'aimes pas en fait. Donc, c'est peut-être qu'il y a eu un problème. Je dis pas ça pour toi, hein, je dis pour les gens qui se comparent aux autres.
Oui.
Les gens qui se comparent aux autres et qui sont affectés par. Parce qu'en fait, tu as deux façons de te comparer aux autres. Tu as les personnes qui, de l'extérieur, vont venir te critiquer. Donc, tu te dis, ah ok, celui-là, il me critique, donc j'interprète, et donc je me compare à ce qu'il me dit. Ou alors, l'autocritique. C'est-à-dire, toi-même, tu fais quelque chose, ça ne fonctionne pas, tu dis ok, et tu te critiques. Et le problème, ça t'affecte émotionnellement, c'est qu'au lieu de te critiquer tes compétences, ou d'écouter une critique de l'extérieur comme étant, je n'ai pas les compétences pour réussir ce que j'ai tenté, au lieu de faire le travail sur les compétences, tu fais le travail sur l'identité, c'est-à-dire sur je suis. Donc, au lieu de dire. Si on prend un exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui veut faire une vidéo comme ça et qui veut la mettre sur YouTube. Et il fait la vidéo, il la montre à un de ses potes et son pote lui dit, c'est vraiment de la merde. Et comment est-ce qu'il va prendre cette critique-là? Est-ce qu'il va se dire, OK, ça veut dire que je n'ai pas encore les compétences pour faire des bonnes vidéos? Mais déjà avant ça, il faudrait valider que la personne qui fait les compétences, qui fait la critique, on doit vraiment l'écouter. Ça, c'est une autre méthode encore, tu vois. Mais admettons qu'on doive l'écouter parce qu'il a déjà fait des vidéos, etc. Est-ce qu'on va se dire, OK, j'ai pas les compétences pour faire la vidéo, ou alors je suis nul? Et généralement, les personnes qui sont affectées par le regard extérieur et qui subissent les critiques des autres eux-mêmes, c'est qu'ils ne s'aiment pas vraiment et ils vont du coup déporter une critique sur un savoir-faire, ils vont la déporter sur un savoir-être et donc sur leur identité. Et ça se voit dans le verbal, hein. La personne va dire, ah purée, j'ai pas réussi à faire ma vidéo, je suis nul. Au lieu de se dire, j'ai pas réussi à faire ma vidéo. Quelle est la technique qui va me permettre d'en faire des meilleurs, tu vois?
Ouais, qu'est-ce qui me manque pour y arriver justement?
Ouais,
Bah,
c'est ça.
y a aussi beaucoup de personnes qui, j'en connais, qui se justifient aussi beaucoup. Dès qu'ils vont faire quelque chose, ils vont se justifier,
Ouais.
comme ça, sans raison. À la moindre, ils vont casser un verre, aussitôt ils vont justifier.
Ah, c'est parce qu'ils sont pas sûrs d'eux.
Voilà, il y a plein de soucis comme ça auxquels on ne fait pas forcément attention. Comme tu le disais, des expériences qu'on a pu avoir, notre éducation, qui vont tellement nous impacter profondément. C'est hallucinant de voir à quel point, sans s'en rendre compte, on peut être programmé et passer à côté de plein de choses.
Ben, il faut prendre en compte qu'on est programme. On n'est que des programmes. Vraiment, on n'est que des automatismes. C'est-à-dire que tu appuies sur un bouton, tu réagis d'une certaine manière, quoi, en gros. Et ce qui est super important, si tu veux t'enlever enfin, prendre conscience du programme, c'est de prendre conscience qu'il y en a et de les trouver, quoi. Et ils sont pas compliqués à trouver. Il suffit d'observer son papa, sa maman, il suffit d'observer ses collègues, ses amis. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est tout ce qu'on fait dans le, bah, tu sais, dans la zone du doute, là, que, dont je te parlais tout à l'heure, dans ce livre-là. Et ce que je dis, c'est le plus important dans le livre, c'est déjà que vous réfléchissiez sur la première zone. Elle fait que 30 pages, cette zone-là, parce qu'après, t'as les 5 autres. Mais c'est le plus important. Parce que la majorité des personnes ne prendra jamais conscience de ça. C'est incroyable, les personnes qui vont rouler dans un modèle de voiture parce que leur mère ou leur père avait ce modèle de voiture ou parce que leur meilleur ami leur a dit que c'était une bonne voiture. Et si cette meilleure amie a dit que cette voiture était une bonne voiture, c'est peut-être parce que sa mère et son père roulaient dans une bonne voiture. Et on se rend compte qu'il y a une espèce d'inertie complète et générationnelle de vérités qui sont complètement fausses. Et c'est hyper compliqué. Enfin, c'est hyper compliqué. Il faut être courageux pour remettre en cause des vérités qu'on pensait vraies, mais qui ne sont pas vraies, en fait. C'est super dur. Il y a des gens qui vont voter toute leur vie, je sais pas, à droite ou à gauche, je n'ai pas de préférence, je m'en fous, mais qui vont faire ça parce que leurs parents faisaient ça.
Oui, sans même se renseigner eux-mêmes. Oui.
Se renseigner, lire les programmes, et puis même au-delà de lire les programmes, comprendre ce que c'est que le système de vote, ce que c'est que la démocratie, comment ça a été pensé par les Grecs, etc. C'est une thématique qui me fait rire, moi, parce que quand il y a les élections, à chaque fois qu'il y a des élections, je partage un reportage sur ma page Facebook qui est « Pourquoi j'ai pas voté ?» qui est en gros un reportage qui était passé sur Arte et qui expliquait que le système de vote était caduque parce qu'on compte pas les votes blancs, les votes nuls, etc. Et donc, en fait, ça a aucune valeur. Alors après, ça veut pas dire que c'est vrai ou que c'est faux, mais c'est marrant d'apporter cette réflexion-là aux gens qui votent et de leur dire « Mais les gars, réfléchissez à comment aujourd'hui est-ce que vous votez ?» La proportion des médias, les temps de parole, les trucs, et finalement, qui élit le président? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment un droit et un devoir de voter? Est-ce qu'on vous a appris à l'école? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et sans dire que moi, j'ai la solution, parce que je ne l'ai pas, le fait d'amener les gens à se faire cette réflexion-là et à trouver leur solution, qui vont dire « Ouais, c'est bien de voter, il faut voter tel camp », ou alors « Non, c'est pas bien de voter et je vais arrêter de voter », par exemple, bah, déjà, les faire réfléchir à ça, c'est vachement mieux que de dire « J'ai voté à droite ou à gauche parce que un tel a voté aussi à droite ou à gauche, tu vois. » Et c'est pareil pour après tout, quoi. Tout. C'est, le mec, tu vois, je prends des douches froides, par exemple. Et à un moment, j'ai découvert la méthode Wim Hof, peut-être que tu connais sur Internet.
Je connais pas.
Tu connais pas? C'est vachement intéressant. C'est un... Bah, d'ailleurs, les scientifiques l'étudient et tout, c'est très intéressant. C'est un gars qui guérit, qui s'auto-guérit. Enfin, son système, il stimule son système immunitaire par l'exposition au froid. Donc notamment, il va carrément aller se baigner dans des icebergs, etc., en Islande et tout. Et il a toute une méthode qui allie l'exposition au froid, l'exposition au chaud, la respiration et la relaxation, qui s'appelle la méthode Wim Hof. Et la base de la base pour entrer là-dedans, c'est la douche froide. En gros, il t'explique tous les matins, tu prends une douche froide à la place de ta douche chaude. Et le but, c'est de rester 3 minutes sous la douche froide. Mais c'est froid, tu vois, il n'y a pas d'eau chaude. Et si tu expliques ça dans un anniversaire ou un déjeuner ou un dîner au restaurant avec plein de gens, les gens vont dire ouais, t'es complètement con, c'est vachement agréable une douche chaude, etc. Et est-ce qu'il y aura peut-être certaines personnes qui vont se dire je vais aller chercher si en fait ce qu'on m'a habitué depuis mon enfance de prendre des douches chaudes, est-ce que c'est vraiment bien, ou alors est-ce que peut-être qu'une douche froide ce serait mieux. Et toutes les personnes qui ont cette naïveté, cette insouciance de se poser la question et d'oser se dire il y a peut-être autre chose, et ben c'est eux qui réussissent tout le temps.
Oui, c'est pour ça que c'est super important d'essayer d'informer un maximum de personnes. Je vois qu'en ce moment, ces derniers temps, on est de plus en plus à essayer justement de parler de développement personnel, de prendre conscience de toutes ces choses.
Ouais.
Mais il y a des fois, on tombe contre des personnes qui ont vraiment du mal à comprendre et sur des personnes qui doivent nécessiter un plus grand temps de travail. Ça t'est déjà arrivé, toi, de devoir passer plus de temps avec une personne pour essayer de lui faire comprendre quelque chose qui était vraiment réfractaire? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et comment tu t'y prends pour des personnes comme ça?
Alors, la première règle déjà, quand on est coach ou quand on veut expliquer quelque chose à quelqu'un, il faut que la demande vienne de la personne à qui on veut l'expliquer. Alors j'ai rencontré le problème que tu décris, mais c'était avant que je connaisse cette règle-là. C'est-à-dire que j'avais découvert des choses, si on reprend l'exemple de la douche froide, admettons, et j'aurais pu aller voir, je ne sais pas, ma copine du moment ou un proche ou un ami et lui dire, ouais, mais mec, faut absolument que tu t'achètes la douche froide dès demain, c'est génial parce que bla 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 bla. Et je lui sors tous les arguments qui me parlent à moi dans ma vie, tu vois. Mais en fait, ton interlocuteur, si lui, il n'a pas le problème et s'il ne t'a pas demandé de lui-même pourquoi est-ce que je prends des douches froides, par exemple, tu vois, eh bien, tu auras beau lui exposer tous les arguments, même les plus réalistes, ça ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut pour convaincre une personne de faire quelque chose, c'est de, premièrement, c'est ce que disent les Américains, c'est « show don't tell ». Ça veut dire tu montres, mais tu n'expliques pas. Donc, si par exemple, c'est ta copine, tous les matins, par exemple, tu prends la douche froide, à un moment, elle va d'elle-même te poser la question, mais pourquoi tu fais ça, toi, en fait? Tu vois? Plutôt que d'aller la voir en disant, ouais, j'ai découvert un truc, c'est génial, il faut que tu le fasses, et je vais t'expliquer que c'est mieux, tu vois. Non, elle n'a pas le problème. Donc, faire naître la curiosité dans la tête de la personne en montrant ce qu'on fait, tout simplement, et attendre qu'elle vienne demander des informations, ou alors lui parler de son problème. C'est-à-dire que si on a identifié un problème chez la personne, c'est vraiment écouter le problème qu'elle a et lui parler de son problème mieux qu'elle-même. C'est-à-dire un peu se mettre à l'intérieur de la personne et commencer à dire « Ah, je comprends vraiment que c'est compliqué le problème que tu as et ça ne m'est jamais arrivé, donc du coup, j'essaye vraiment de te mettre à ta place et j'ai l'impression que c'est ça et ça et ça. » Et commencer à poser des questions à la personne et à la faire remuer la douleur ou remuer le couteau dans la plaie, parce que les gens adorent se plaindre. Donc du coup, personne se plaint. Et ce qui est super intéressant, c'est que toi, du coup, tu emmagasines plein d'informations sur la façon dont la personne voit le monde. Et des fois, il y a des trucs complètement dingues. Il y a des gens qui vont t'expliquer qu'ils sont malheureux parce que... Et là, ils vont te mettre un truc complètement fou derrière. Je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais toi qui pensais, par exemple, que la personne est malheureuse parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent et qu'elle trime tous les jours à son travail et tu avais envie de lui apporter, je ne sais pas, un nouveau business model sur Internet... En fait, la personne, elle va, à l'écouter, elle va te dire « Ouais, en fait, je suis hyper malheureux parce que tous les soirs, il y a ma voisine du dessus qui se couche hyper tard, elle fait du bruit. Et comme moi, je me lève tôt le matin, eh bien, je suis de mauvaise humeur et je commence mes journées comme un con. Je commence mes journées comme un con parce que je n'ai pas dormi. Et du coup, je suis de mauvaise humeur tout le temps et j'ai une vie de merde. » Et le mauvais coach, c'est celui qui croit avoir compris le problème de la personne. « Ah, tu es malheureux dans ta vie, alors il faut que tu développes un business sur Internet parce qu'en fait, c'est toi. » Là, je suis en train de parler, tu vois, comme si c'était moi le mauvais coach. Et quand moi, j'étais malheureux dans ma vie, j'ai changé de vie, j'ai développé mon business sur Internet, tu vois. Donc, je pourrais, par rapport à ma vision de la vie et ma vérité qui fonctionne pour moi, dire qu'une personne qui vient me voir et qui me dit « Ah, je suis malheureuse dans ma vie et tout », si j'étais très mauvais, je dirais « Mais crée un business sur Internet, tu vois. » C'est une caricature, mais c'est ce que font les mauvais coachs. Alors que si on l'écoute et que la personne exprime que ce qui la rend la plus malheureuse dans sa vie aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'arrive pas à dormir, parce qu'elle a la voisine du dessus qui fait un boucan jusqu'à minuit, dans ce cas-là, on va peut-être réussir à lui expliquer comment adopter, je sais pas, une écoute active ou une méthode de communication non violente ou autre chose pour aller voir sa voisine et lui expliquer qu'il faut qu'elle se couche plus tôt, tu vois. Et généralement, si on se pose le problème, la question que tu m'as posée du coup, de ne pas réussir à faire passer des choses à une personne, il y a énormément de chances que c'est juste que la personne n'ait pas envie d'entendre ça et en fait, ce n'est pas vraiment son problème, tu vois. On est généralement, et moi, ça m'est arrivé 100 fois, en train de répercuter notre vision du monde et nos problèmes et nos solutions à nous pour les donner à quelqu'un qui n'en a pas besoin.
Oui, chacun a sa vision du bonheur, sa vision du succès. Et une personne qui va avoir besoin de se faire une tonne de fric pour être heureuse, l'autre, peut-être que son boulot dans son usine, son 35 heures par semaine lui convient et la rend heureuse. Peut-être que c'est quelque chose de tout à fait différent. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas proposer une chose à une personne si on ne sait pas si ça va lui convenir.
Exactement. Et tu sais, quand tu observes les combats en ce moment, vegan, végétarien, végétalien, flexitarien, carnivore, normal, je ne sais pas comment on dit normal, omnivore.
Omnivore, oui.
J'ai vachement étudié ces mouvements parce que d'un point de vue sociologique, ça m'amuse. Et puis, j'ai essayé de chercher un peu la vérité derrière, tu vois, de voir s'il y avait vraiment un régime alimentaire intéressant. Et il n'y a pas de vrai ou de faux, en fait. C'est ça qu'on se rend compte. C'est qu'il y a des régimes alimentaires qui correspondent en fonction de l'évolution de là où tu es né sur la planète. Ça veut dire qu'un Indien, et d'ailleurs on le voit dans les cultures, un Indien ne va pas manger comme un Chinois, qui ne va pas manger comme un Africain, qui ne va pas manger comme un Européen. Donc déjà, d'un point de vue système digestif et façon dont on est conçu, on ne va pas digérer de la même manière les aliments pimentés ou les viandes, les légumes, les légumineuses, les céréales, etc. Et c'est pour ça que tu vas avoir des gens qui vont être allergiques au gluten, d'autres qui vont avoir des trucs. Enfin, les allergies, c'est juste qu'on essaye de faire rentrer tout le monde dans un espèce d'industrialisation de la bouffe où on te vend des trucs pas bien. Et le truc de base où tu vois l'industrie agroalimentaire a commencé à faire n'importe quoi et ça crée des problèmes et des maladies, eh bien après on arrive à des non-sens qui disent oui mais il faut être végétarien ou faut être végétalien ou faut être je ne sais quoi, tu vois. Il n'y a pas de réponse. Il y a une réponse que pour que pour toi. Mmh. Ton corps, il te le dit. Si un mec qui doit manger de la viande, il devient végétarien, au bout d'un mois et demi, deux mois, il va commencer à être carencé en B12, il va être carencé en protéines et il va tomber, il va s'évanouir. Alors qu'un autre gars qui aura exactement le même régime alimentaire, mais qui n'aura pas la même origine ethnique sur la planète, il va le supporter très bien et avoir beaucoup plus d'énergie, ça va lui aller vraiment bien. Ça, c'est un excellent exemple. Et c'est le même exemple qu'un peu avec la politique que je prenais tout à l'heure. Il n'y a pas de solution universelle. Moi, je suis intimement convaincu qu'on ne fera jamais rien par les mouvements de masse. Les gilets jaunes, ça, pour moi, c'est une futilité qui occupe l'espace média.
Oui.
C'est des gens qui se réunissent entre eux pour parler de malheur, mais le malheur du mec qui a le gilet jaune à côté de l'autre qui a le gilet jaune, ce n'est pas le même. Ils ne vivent pas la même vie et les solutions pour ces deux gars ne sont pas les mêmes. Mmh. Donc là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont peut-être créer un parti politique, etc., représenter un peu ce que faisait Coluche aussi à l'époque, représenter les pauvres, etc., ou les gens qui sont dans le malheur, parce qu'il n'y a pas que des pauvres dans les gilets jaunes d'ailleurs. Les entrepreneurs, nous, on fait partie des gilets jaunes, parce qu'on est taxé à mort. Quand tu fais, je sais pas, 1000 euros de chiffre d'affaires sur une société, t'enlèves les 20% de TVA, les 50% de charges, t'as 75% de ton chiffre d'affaires qui se barre vers l'État, et derrière, quand tu te verses ton petit salaire, après, derrière, t'as les impôts sur le revenu, tu vois.
Oui.
Donc, en quelque sorte, les entrepreneurs sont les plus gros gilets jaunes qui se font avoir par le système tant qu'ils sont à un seuil de chiffre d'affaires qui est inférieur à, on va dire, inférieur à 100, entre 100 et 200 000 euros. Après, ça commence à être bien et tu peux commencer à faire des investissements, etc. Mais en dessous de 100 et 200 000 euros, c'est des gros chiffres, mais l'entrepreneur qui fait ces sommes-là reste pauvre au niveau du cadran de la société. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, oui.
Et donc, tout ça, c'est pour dire que si on veut changer le monde et si les individus veulent vraiment changer, il faut qu'ils se changent eux, qu'ils trouvent des solutions pour eux avant d'essayer d'imposer leur vision du monde à d'autres gens et encore moins à des masses. C'est pour ça que dans le livre, ce que je donne, c'est un modèle. Je ne donne jamais de réponse. Je ne fais que poser des questions dans le livre. Je donne des méthodes génériques. Par exemple, définir un projet, bah, faut faire la méthode SMART. Ok, super, c'est hyper connu. Spécifique, mesurable, aligné, c'est ce que je dis, réaliste et temporellement défini, voilà. Mais le projet en lui-même, je ne dis pas ce que c'est. Par contre, j'explique qu'il faut trouver son ikigai, son critère d'unicité, mixer ses passions, sa profession, ses compétences, tu vois. Mais jamais ce que c'est. Je dis qu'il faut trouver ses valeurs, mais je ne dis pas quelles sont les bonnes valeurs. Moi, dans mon cas, c'est la liberté, la contribution, le dépassement de soi. Super. Mais je ne vais jamais aller convaincre quelqu'un. Par exemple, si j'allais voir ma mère et que je lui disais ta valeur à toi, c'est la liberté, c'est génial d'être libre. Mais c'est pas ça, parce que ma mère, c'est la contribution, sa valeur, tu vois.
Oui.
Donc, je peux pas lui dire, il faut que tu sois libre, il faut que tu sois que tu entreprennes et tout. Bah non, elle est vachement bien en étant salariée. Et je suis intimement persuadé qu'elle serait mieux dans le milieu associatif parce qu'elle a tellement la contribution qui est forte chez elle que si elle avait été dans un milieu associatif, ça aurait été parfait pour elle. Alors que moi, tu me mets dans un milieu associatif, je pète un câble. Tu vois, parce que je dirais, non, mais attendez, les gars, il faut faire un peu d'argent, là. Il y a un problème. Donc, tu vois, c'est pas pareil. Mais on a tous les deux raisons dans notre monde.
Oui, c'est pour ça, comme tu disais, que les mouvements de masse, ça, au final, ça n'apporte rien de concret. Parce que oui, chacun est différent. Même dans un groupe qui va être uni autour d'une idée, autour d'une passion, chacun peut avoir des personnalités différentes, des besoins différents. Et ce qui va être important, oui, c'est de permettre aux personnes de se rendre compte de ce qu'elles ont vraiment besoin pour être heureuses.
Mmh.
Et de trouver comment l'être au quotidien, se libérer justement de toute cette masse autour d'eux qui les force à avoir une pensée unique qui ne leur correspond pas forcément. Et ça me fait penser, j'ai vu il y a quelques jours, je ne sais pas si tu connais Céline Alvarez.
Non.
Qui propose dans les maternelles de reformer complètement le système éducatif, mais complètement. À travers différents exercices qui, au lieu de pousser les enfants à s'asseoir à une table, à apprendre à lire, apprendre à écrire, tout ça, les apprendre justement à être curieux et les apprendre à apprendre.
Bah ouais, bah, Quand j'avais sorti, enfin quand j'avais créé 2012 en, pardon, Penser et Agir en 2012, le premier article que j'avais publié sur le blog, c'était pourquoi le développement personnel devrait être enseigné à l'école et dès la maternelle. Et oui, bah oui, je peux que dire ça. Si on apprenait à apprendre, ce serait un gain de temps incroyable. Moi, quand je suis sorti de, enfin, quand je me suis reconverti de mon métier d'ingénieur, j'avais donc un bac plus 5 à l'école et 4 ans d'expérience en tant qu'ingénieur, donc où j'avais travaillé en tant que salarié. Et ce qui a été vraiment compliqué pour moi, et c'est encore aujourd'hui quelque chose que je combats tout le temps, c'est de désapprendre tout ce que j'ai appris. Parce que l'ingénieur, il est tellement conditionné avec des vérités que, et même toi qui es programmeur, c'est un peu pareil, c'est très difficile de se rendre compte, parce qu'on a fait 9 ans enfin moi j'avais fait 9 ans de vie forte là-dedans, de se rendre compte de tous ces trucs que je crois vrais qui sont faux. Typiquement, moi, j'avais un énorme problème, c'est que j'étais aussi développeur informatique et du coup, je pensais savoir tout sur le code, tu vois. Enfin, je me disais, ouais, je sais faire du Java, je l'ai fait à haut niveau, donc je peux apprendre facilement, je sais pas, le PHP ou ce que tu veux. Mmh. Et c'est vrai que j'en étais capable d'apprendre ça. C'est pas compliqué pour moi parce que j'ai le bagage pour le faire. Le problème, c'est est-ce que c'est ton rôle par rapport à ta vision de faire ça, tu vois? Et c'est un truc, mais j'ai mis du temps à comprendre ça, à me dire, mais ouais, mais c'est pas parce que tu sais faire quelque chose que déjà t'es le meilleur, parce que ça c'est faux, il y a des gens qui sont bien meilleurs que toi, parce qu'ils sont vraiment passionnés de ce langage informatique, tu vois, de ce truc-là, ça c'est pour l'informatique, mais c'était pareil pour la rédaction d'articles. Il y a un moment, je voulais apprendre, tu vois, l'ingénieur, il veut apprendre tout le temps. Donc je voulais apprendre la rédaction et tout, et je l'ai appris, j'ai fait tout ça. Mais à un moment, si tu te retrouves à coder ton site, à écrire tes articles, à apprendre à faire du montage vidéo pour tes formations, ouais, à installer un studio et à régler les trucs. Quand t'es ingénieur, tu peux tout apprendre, tu vois. Et tu sais, il faut vraiment se recabler l'esprit en se disant, mais en fait, apprendre, c'est pas le top, le top du top. Faut apprendre dans son expertise unique, son feu ardent, comme l'appelle Napoléon Hill. Mais à côté, tout le reste qu'on pourrait apprendre, il faut apprendre à le déléguer. Et je crois que ça a été peut-être le défi le plus grand et le défi que j'ai encore aujourd'hui, où des fois je me retrouve à faire des trucs et je me dis, bah là j'étais en train de faire un PowerPoint tout à l'heure, je me disais, mais est-ce que c'est à moi de le faire le PowerPoint, tu vois? Est-ce que ce ne serait pas un graphiste qui serait bien meilleur que moi pour faire ça? C'est tellement dur de désapprendre tout ça. Et aussi, ce qui était très compliqué pour moi en tant qu'ingénieur, encore une fois, à désapprendre, c'est de mettre de la valeur financière sur des programmes. Parce que je me disais, ouais, c'est un programme informatique, je peux le refaire, tu vois. Il y a un moment, mais non, en fait, les gars, ils l'ont fait. Et en fait, ils ont vu des problèmes en le faisant que toi, tu n'as pas vu. Et ça a une valeur, ça. Et même si ça te semble cher dans ta tête, en fait, c'est pas cher. Et il faut apprendre à investir de l'argent pour avoir les compétences des autres et oublier cette fâcheuse tendance qu'ont les informaticiens ou les ingénieurs en informatique à croire qu'ils sont bons partout, quoi. Je sais pas si tu vois ou pas ce truc-là,
si,
chez toi aussi.
Je vois, mais je me demande si c'est pas plus une... comme un besoin d'un peu de contrôler, d'essayer de comprendre et de contrôler derrière, justement, se dire que réussir à comprendre donc la chose et du coup aussi essayer de mettre en pratique et de montrer qu'on sait le faire, comme pour se le montrer à soi-même et justement avoir du mal à laisser notre travail du coup à quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi.
Mais c'est ouais, hyper dur, mais il faut admettre que les autres sont meilleurs, tu vois.
Oui. Oui, oui.
C'est ça qui est difficile. Moi, au début, j'étais persuadé que quand je rédigeais un article de blog, parce qu'aujourd'hui, j'ai des rédacteurs, maintenant, on publie 2 articles par jour aujourd'hui, donc c'est des rédacteurs qui les écrivent, c'est plus moi. Mais au début, quand j'ai délégué, c'était il y a peut-être 3 ans, quelque chose comme ça, c'était impossible pour moi. C'est-à-dire que je déléguais la personne, alors c'était une femme à l'époque, une Française, qui écrivait l'article, et moi, je le relisais, et je le réécrivais pratiquement parce que j'avais l'impression que mon avis était meilleur que le sien, tu vois, parce que ça, c'était mon bébé. Mais c'est faux, en fait, c'est vraiment faux. Et j'ai mis du temps à me rendre compte de ça. Et je suis même allé un cran plus loin. C'est que si je ne suis pas d'accord avec un article qui est publié sur mon site, par exemple, aujourd'hui, tant que ce n'est pas choquant ou que ce n'est pas, on va dire, totalement contraire à mes valeurs et, tu vois, vraiment un truc complètement différent. Mais si je vois, c'est un point de vue avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, mais je me dis pourquoi pas, finalement. Bah, je le laisse, en fait, tu vois. Parce que se dire qu'on n'a pas la bonne réponse, c'est aussi s'autoriser à avoir des personnes dans son équipe qui vont apporter des meilleures réponses pour eux, ou en tout cas donner le meilleur d'eux dans leur travail. Et c'est vachement bien d'avoir une équipe comme ça qui essaie d'apporter le meilleur et que toi, en tant que manager, tu ne sois pas toujours à dire ouais, mais non, ce que tu as fait, c'est pas bien, ou il aurait mieux fallu faire ça, etc. Donc, moi, c'est un énorme problème que j'avais et que je combats encore toujours aujourd'hui en me disant ah, j'aurais jamais pensé ça, j'aurais jamais écrit ça. Mais maintenant que je le lis, je me dis ouais, pourquoi pas. Donc, ça a le mérite d'exister. Quoi.
Ouais, ça peut apporter de nouvelles idées et ça pousse les gens à utiliser leur créativité et pas seulement leurs compétences de rédaction.
Ouais, et puis à s'investir dans le sujet, quoi.
Voilà, exactement. Elles vont se sentir impliquées et elles vont avoir plus tendance à s'impliquer.
Mais c'est pareil pour tout, hein. C'est là on parle de business, de rédaction, de programmeur, mais c'est pareil dans une relation de couple. Hein. Si tu laisses la personne s'exprimer et que t'es... Enfin, en fait, les gens ont l'impression que c'est qu'un dialogue, c'est une espèce de duo, de duel, pardon. Tu sais, t'as le mec, la fille, et puis le mec dit le foot c'est bien, la fille dit ouais mais moi j'aime pas le foot, ouais mais c'est bien, tu devrais voir, regarde le sport, je vais t'expliquer la psychologie du foot, etc. Ouais mais moi j'aime pas ça, je préfère regarder, je sais pas, le patinage artistique. Si tu voyais les entraînements des filles, nanana. Ouais mais non, mais au foot. Et en fait, ils parlent tous les deux de leur monde.
Mais pas ensemble.
Bah, personne s'écoute. Alors que si on inversait les rôles et que le gars commence à dire ah mais le patinage, j'ai jamais compris, j'ai l'impression que c'est nul, c'est juste des gens qui glissent. Enfin, mais non, mais regarde ce qu'ils font pour apprendre ça et tout. Ah ouais, c'est intéressant. Hein. Et rentrer dans le monde de l'autre personne, c'est pas se prostituer et se dire je vais vraiment croire ce qu'il me dit, tu vois. C'est juste se dire ah, il y a cette vision qui existe aussi et finalement elle est aussi intéressante que la mienne. Si elle est plus intéressante, bah, dans ce cas-là, la personne m'attire et je deviens fan de patinage, tu vois. Et si elle n'est pas plus intéressante, bah dans ce cas-là, je comprends déjà pourquoi est-ce qu'elle existe et pourquoi est-ce que bah, ma femme, par exemple, regarde une patinage artistique. Ouais,
c'est faire preuve d'empathie pour comprendre la personne,
ouais.
Et pouvoir déjà communiquer plus sainement après, derrière. Quand on comprend la personne, on va plus loin. Après, on apprend plus de choses. On peut apporter plus de choses aussi à la personne. Et ouais, c'est la communication, c'est un échange, ça va pas dans un seul sens.
Yes, il y a une forme d'ouverture d'esprit aussi qui est très importante.
Je voulais te demander un peu au niveau, toi, du salariat. Yes. Comment ça s'est passé, ta vision du salariat? Est-ce que quand tu as voulu te lancer, c'était parce que tu avais vraiment envie d'être à ton compte, de travailler pour toi? Ou le salariat, est-ce que finalement ça ne te dérangeait pas plus que ça, entre guillemets? Est-ce que tu aurais pu continuer ou tu avais vraiment besoin de partir?
Alors moi, ma vie, elle a été, par rapport au salariat, elle a été compliquée. J'ai toujours détesté le salariat. Mais tu vois, le salariat, c'est juste le symptôme. Moi, j'ai toujours détesté l'autorité, mais à un point inimaginable. Je peux entrer dans des colères folles si, par exemple, il y a des trucs de dingue. Je déteste qu'on me contrôle dans le métro. Tu vois, qu'on contrôle ma carte. Parce que je ne supporte pas, tu vois, ma valeur forte, c'est la liberté. Donc, je veux être libre d'aller où je veux tranquillement et tout. Et je suis en règle, tu vois, je ne suis pas un mec mauvais, tu vois. Je suis un mec gentil. Et je ne supporte pas qu'on me contrôle. Donc, bon, j'ai appris à le faire. Hein, je ne vais pas m'énerver, les taper à chaque fois qu'ils me contrôlent, tu vois. Je leur dis, mais je ne fais pas de sourire, tu vois. Pour moi, c'est un métier de merde, ça. Je déteste ça. Alors, ce n'est pas un métier de merde, mais dans ma vision du monde, c'est un métier de merde. C'est comme les inspecteurs des impôts, où tous les mois, quand je dois faire ma comptabilité et que je dois prendre en photo tous mes tickets de caisse de toutes les dépenses de ma société. Mais ça, mais je perds mais un temps fou, parce que ça, je ne peux pas le déléguer, parce que forcément, c'est moi qui ai les tickets, tu vois. Donc, il y a un moment, il faut bien soit que je les envoie par la poste, soit que je les prenne en photo. Aujourd'hui, je les prends en photo, je les envoie à la compta. Mais faire ça, mais je le repousse jusqu'à la dernière minute tellement que je déteste ça, parce que je déteste être contrôlé et je déteste l'autorité, tu vois. Je fais les choses dans l'ordre. C'est déjà très compliqué de les faire bien en France, parce que les textes sont compliqués. Donc, alors, imagine-toi quand j'étais salarié. C'était, tu sais, quand t'es salarié, tu dois arriver à 9h le matin. Enfin, moi, c'était 9h le matin et partir après 18h. Tu sais, il y avait des fenêtres de présence. Ouais. Et alors, ça m'a toujours, mais complètement dépassé. Le truc, c'est par exemple, des fois, je finissais mon travail. Genre, je finissais à 15h mes objectifs et je devais faire du n'importe quoi. Je devais être là jusqu'à 18h, tu vois, avant de partir, tu vois, par exemple. Et par contre, des fois, j'avais beaucoup de travail et je finissais pas à 18h. Là, par contre, je devais partir à 22h, tu vois.
Ouais.
Et à un moment, je me disais, il y a une injustice flagrante. C'est-à-dire, on me donne des objectifs et des deadlines. Et il y a des fois, je vais partir à 22h, mais il y a des fois, j'ai une obligation de présence jusqu'à 18h. C'est quoi ce monde, quoi, tu vois? Mais c'est grâce à ça que j'ai créé Penser et Agir, parce que En 2012, j'ai créé ma boîte en septembre 2013, mais j'ai commencé à créer le site en 2012, en février 2012. Donc j'ai bossé pendant un an et demi avant de quitter mon emploi. Mais comme je finissais les trucs, j'avais une anecdote, on avait vendu un truc, je crois que c'était sur un mois et demi ou 2 mois, je sais plus, j'avais fait le travail en 3 jours. Donc, mais moi, j'avais pas dit que j'avais fini le travail, tu vois. Après, je jouais le con, en fait. Vu qu'on m'emmerde et qu'on me demande un truc de présence de telle heure à telle heure, bah là, on a vendu un truc de 2 mois et je l'ai fait en 3 jours. Tant mieux pour moi. Je vais laisser quelques trucs en suspens que je vais dire que j'ai pas fait. Et c'est comme ça que j'ai développé mon site web, tu vois.
D'accord.
J'étais au travail et du coup, je travaillais sur mon truc. Je me disais, de toute façon, si j'étais pas au travail, je ferais la même chose chez moi. Ce qui me manquait énormément aussi quand j'étais salarié, c'était de pouvoir sortir quand il faisait beau. Ça, c'est un truc de fou. Parce que moi, en plus, je bossais sur ordinateur, tu vois. J'aurais pu bosser chez moi. Ou de nuit. Ça ne me dérangeait pas fondamentalement. Mais je me disais, purée, il est 14h30 là. Il fait super beau. J'ai envie de sortir 1 heure, tu vois. Et tu peux pas, ça. C'est horrible. Vous pouvez pas faire ça. Vous sortir ou même pas travailler cet après-midi, tu vois. Et puis peut-être travailler à 22h jusqu'à 2h du matin ou de 20h à minuit, j'en sais rien. Ça ne me dérangeait pas. Mais on peut pas. Donc ce que je supporte pas dans le salariat, c'est cette espèce de prison ou de règles qu'on t'impose pour une sorte de cohésion d'équipe ou pour contrôler ce que tu fais ou j'en sais rien, je comprends pas ces règles-là. Et donc, c'est horrible pour moi. Quand j'étais ingénieur, je suis jamais arrivé à 9h du matin. Jamais, hein. J'arrivais à 10h30, 11h, j'ai eu des redressements, des rappels à l'ordre. Mon patron de Nantes qui venait à Paris chez Thalès quand je bossais pour me faire un rappel à l'ordre parce que le N plus 2 l'avait appelé et que c'était dramatique et tout machin. Parce que j'arrivais à 10h30, 11h. Par contre, le soir, bah, je partais plus tard si j'avais pas fini. Mais ça comptait pas. Donc, ouais, non, le salariat, je l'ai en horreur. Par contre, j'étais quand même intelligent, c'est-à-dire que quand je quittais le salariat, parce que je suis revenu, je l'ai quitté, je suis revenu. Hein. En 2017, hein, ça fait pas longtemps, je suis redevenu salarié. J'ai été directeur marketing pour une société qui s'appelle 1 minute 30, qui est la plus grosse boîte de ce qui s'appelle l'inbound marketing, c'est le marketing entrant. C'est, tu fais des blogs, les gens arrivent, ils s'inscrivent et tu leur vends des trucs, en gros.
D'accord.
En fait, j'avais dû redevenir salarié parce que ma boîte faisait pas assez de chiffre d'affaires pour être auto-entrepreneur. Faisait trop de chiffre d'affaires pour être auto-entrepreneur, mais pas assez de chiffre d'affaires pour que je puisse me payer et tout en réinvestissant du chiffre d'affaires pour faire croître la société, tu vois.
D'accord.
Il n'y a qu'en France que tu peux arriver dans une connerie comme ça, tu vois. C'est-à-dire, ta boîte marche, mais pas assez pour que tu puisses te payer, enfin, payer ton loyer, ta bouffe, etc. Surtout à Paris, hein, ça coûte cher. Ou alors juste assez pour te payer, mais du coup, tu ne peux pas réinvestir dans tes équipes pour que ta société elle gagne de l'argent. Donc, il y a un moment, je me suis dit, OK, je sacrifie mon salaire. Du coup, je me barre, je vais trouver un job et mon salaire me servira à payer mes prestats. Et du coup, ça m'a permis de développer ça. À l'époque, j'avais multiplié par 3 le chiffre d'affaires et par 8 le trafic de mon site. Ça, c'était donc du coup 2017 à 2018. C'est assez récent. Et donc, j'ai retravaillé pendant 9 mois en tant que directeur marketing, mais j'étais du coup salarié.
T'as pas fait trop mal?
Ah, mais si, mais c'est horrible. J'ai pris 15 kilos, j'ai redéclenché une
Ah
hernie, j'ai
ouais.
recouvert mon corps d'eczéma. C'est pour te dire à quel
Ah ouais.
point c'est douloureux pour moi d'être salarié. Mais par contre, je peux considérer que c'est très bien pour d'autres personnes, tu vois. Mais tu vois, quand j'avais 17 ans, j'avais créé une association sur Nantes où on organisait des concerts de métal et de punk hardcore. Donc déjà, j'avais créé un truc, tu vois, une association. C'est comme une petite entreprise, hein, surtout à 17 ans. Quand j'avais 15 ans, j'avais créé un site web d'humour. En 2011, j'ai créé une SARL qui s'appelait Make Your Deal, où on vendait des... Enfin, on a essayé de vendre parce que ça n'a pas trop marché. Des trucs d'achat groupé, c'est comme Groupon et tout ça là.
Oui.
On avait fait ça. Donc moi j'ai toujours été dans une démarche de créer des projets. Quand j'étais à la fac, je jouais 4 heures par jour en ligne au poker. Tu sais, pour être joueur de poker pro. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'allais pas passer 8 heures par jour de ma vie devant un PC à jouer au poker, quoi. Mais tu vois, j'avais toujours cette dynamique de me dire je veux être le maître de ma vie, délimiter les règles et être libre en fait. Pour moi, être libre, c'est créer sa prison. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas sa prison. Prison, c'est très négatif. Être libre, c'est l'art de créer sa routine. C'est-à-dire de créer une routine qui peut se répéter tous les jours, mais que tu es super heureux de vivre.
Oui.
Et ça, pour moi, c'est vraiment être libre. Et ouais, donc c'est pour ça que j'ai toujours fui le salariat, parce que tu peux pas créer ta routine dans le salariat. C'est forcément, on te l'impose à un moment. Si on te paye, c'est normal, hein, d'ailleurs.
Oui.
Mais à l'inverse, par contre, tu vois, cette valeur de liberté, elle est dans ma boîte aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai plusieurs prestats. Il y en a, je sais même pas combien il y en a parce qu'il y en a en dessous d'autres, mais on va dire que moi je parle principalement avec trois personnes, trois, quatre personnes, ça les... non, quatre personnes, Ouais, 4 personnes. Et en dessous de ces personnes-là, il y a des rédacteurs, justement. Et il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de date, il n'y a pas de truc, en fait. Je donne juste des objectifs, je donne des cadences à tenir, typiquement 2 heures par jour en ce moment. Mais ensuite, ils dispatchent comme ils veulent à leur équipe, à leur rédacteur. En fait, ils s'organisent comme ils veulent. À partir du moment où on a défini un prix et qu'on a dit à partir de telle date, il faut qu'il y ait 2 articles par jour qui soient publiés, bah, le mec, je sais pas, s'il veut écrire 2 articles par jour lui-même, il le fait. Mais s'il veut en faire 60 d'un coup en déléguant des personnes et se prendre, et du coup être payé direct et se faire des vacances pendant, je sais pas, voilà, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais.
Il s'organise comme il veut, quoi. Il n'y a pas de... Moi, je m'en fous, je contrôle le résultat, tu vois. Je ne contrôle pas le comment il va le faire. Et c'est génial si la personne trouve un système d'être payé cher et que ça ne lui prenne pas de temps, tu vois.
Ouais.
À partir du moment où moi, j'ai dit « ce tarif-là me va » et le résultat, c'est ça, bah après, il fait ce qu'il veut mieux, quoi.
Du moment que c'est fait,
ouais.
C'est à la personne après de s'adapter. Et ouais, ça permet, comme tu dis, d'éviter de rester jusque 6 heures alors qu'on a fini à 15 heures ou de repartir à 22 heures.
Non, ouais, ça c'est fou. Pour moi, ce truc-là, c'est justifié que dans les prestations de services ou les magasins, genre tes serveurs ou tes vendeurs ou t'as une communication avec un client ou un prospect. Oui, tu dois être présent dans le magasin ou dans l'office, tu vois. Mais en tant qu'ingénieur ou en tant que développeur, je n'ai jamais compris. Mais bon, voilà, j'essaye en tout cas de mettre mes valeurs dans ma société et dans la façon dont elle fonctionne. Et mes prestataires ne s'en plaignent pas, parce que ça fait des années qu'ils bossent avec moi. Donc je pense qu'ils ne s'en plaignent pas.
Ouais, t'as vraiment développé un état d'esprit super intéressant. Et c'est super de voir que tu t'es servi de ton métier pour réussir à créer ce modèle qui va aider les gens à trouver leur voie, à trouver ce qui les rend heureux, réussir à pouvoir vulgariser un concept aussi complexe, parce que ça englobe tellement de parties de la vie, que ce soit l'éducation, la confiance en soi, la peur de passer à l'action, ça englobe tellement de choses, et réussir à créer des petites étapes comme ça qui vont pouvoir permettre à n'importe qui de réfléchir, c'est super intéressant.
C'est plus que réfléchir, hein. Réfléchir,
oui,
c'est
oui. Après, réfléchir, c'est... prendre conscience de toutes ces choses pour derrière bien se poser les... Comment... Je te laisse en parler, tu le fais mieux que moi.
Non, mais j'invite les gens à réfléchir dans le livre, mais après derrière, ils vont carrément trouver leur, ce qui s'appelle l'ikigai, donc qu'est-ce qui les rend uniques, le transposer dans un vrai projet, passer à l'action, remettre en cause l'échec. Ils vont apprendre à définir même des critères de mesurabilité, ils vont apprendre à mesurer leur avancée, apprendre à se critiquer sur les compétences et pas sur l'identité. Tout ce qu'on a dit dans l'interview, il y a absolument tout dans le livre, en fait. Il y a tout dedans. C'est pas juste, juste réfléchir. Le reproche que je faisais au livre de développement personnel qui existe, c'est que ça adresse que un truc très précis et tu dis « Ah ouais, ok, super, j'ai trouvé en quoi j'étais unique », mais après, t'en fais rien, tu vois. Mm. Tu te dis… Tu vois, par exemple, si j'avais lu un livre sur l'ikigai qui traite que de l'ikigai, donc l'ikigai, c'est un mot japonais, c'est un concept japonais qui explique que chaque individu sur cette planète a une raison de se lever tous les matins, une raison d'être et de vivre, et que cette raison d'être, il doit l'incarner dans la vie, en fait. Et voilà, si tu lis un truc et que tu te rends compte que ta raison d'être, bah voilà, pour moi, ce serait de mélanger la psychologie, le dev perso avec les méthodologies d'ingénieur. Ok, super, voilà, j'ai fini le livre, tu vois. Moi, ça me soulève, ça, parce que je me disais, ouais, ça m'a apporté quelque chose, mais qu'est-ce que j'en fais concrètement, tu vois. Et moi, j'ai voulu faire le bouquin qui va t'emmener jusqu'au bout, quoi. Donc, après, comment est-ce qu'on... Si tu trouves que t'es passionné de, je sais pas, moi, t'es vegan, par exemple, t'es passionné de cuisine, et ta mission dans la vie, c'est de sauver les animaux, tu vois, vraiment. T'es vraiment impacté par ça, tu veux sauver la planète, l'écologie et les animaux, tu vois, c'est ton truc à toi. Et donc, le bouquin, admettons, tu vois ton ikigai, tu trouves ces 3 trucs-là. Ben moi, je vais t'apprendre à trouver le projet derrière, tu vois. Mm. Par exemple, et c'est un exemple que je donne dans le livre, c'est pour ça que je le cite. Par exemple, ce serait de créer une boucherie vegan, tu vois. Ça n'a pas été fait, tu vois, par exemple. Et du coup, cette boucherie vegan, tu pourrais te dire, je vais apprendre aux gens à refaire des lasagnes à la bolognaise vegan, des chipolatas et des barbecues vegan, tu vois. Tous les trucs à base de viande qu'il y a dans une boucherie, on va les refaire en vegan. Et à chaque fois que la personne va m'acheter, par exemple, il veut faire des lasagnes véganes, bah, en fait, je vais lui vendre le tu vois, le panier avec tous les ingrédients pour faire la recette et la recette en PDF en échange de son adresse email ou alors en flyers avec une réduction dessus ou autre, tu vois. Et de cette manière-là, tu pars d'un truc qui aurait pu sembler totalement abstrait. Je suis vegan, je veux changer le monde là-dessus et j'adore la cuisine. À un projet, bah, je vais créer une boucherie, on va donner des recettes aux gens, inventer des paniers avec des plats déjà faits. Enfin, pas déjà faits, mais tu peux même faire du traiteur, du coup, tu vois, derrière. Ouais. Tu peux découvrir les plats, t'apprends aux gens à les faire. Tu fais des événements de cuisine chez toi, dans ta boucherie, des ateliers pour expliquer aux gens. Enfin, tu vois, c'est tellement loin après. Comment tu peux découler la vision de l'entrepreneuriat derrière à partir d'un truc qui, à la base, pouvait t'en sembler complètement fou. Il y a un autre exemple qui est, je sais pas, t'adores courir le marathon, et t'es fan des cérémonies indiennes, et t'as envie que les gens s'amusent, tu vois. T'adores aller en boîte. Tu vois, si t'arrives là-dessus, tu dis, OK, ça c'est mon ikigai, j'en fais quoi? Et en fait, tu te rends compte qu'il y a un gars qui a fait une course qui s'appelle The Colors Run, qui existe partout dans le monde aujourd'hui. Et c'était exactement ça, son truc. C'est un mec qui était fan de marathon, enfin de course en tout cas. Et donc, il a fait une course, je sais plus combien de kilomètres, c'est moins qu'un marathon, hein, où les gens se balancent de la peinture. En fait, c'est même les spectateurs amènent de la peinture et se la balancent. Et ça, c'était en l'honneur d'une cérémonie indienne dont il était fan. Et le fun, bah, du coup, ça va avec la peinture et la cérémonie. Donc, il a mélangé la course à pied, la cérémonie indienne et le fun. Et ça a fait un truc qui est mondialement connu qui s'appelle The Color Run. Tout ça en passant de là. Donc, ce qui compte, c'est pas juste de s'arrêter à « Ok, c'est ça qui fait de moi qui suis, ce que je suis. » C'est vraiment d'en faire un projet et après de passer à l'action, de le rendre actionnable et de mesurer son avancement, etc. Enfin, tout ça, tu vois. Tout ça, c'est ce que j'ai voulu mettre dans le livre. Et à ma connaissance, c'est le seul aujourd'hui dont la promesse est si forte, tu vois, et si large en tout cas. C'est pour ça que j'ai été édité par Hachette. Hein. C'est pas pour, c'est parce qu'ils se sont dit, putain, ce mec-là, il a un truc à défendre qui n'a pas été fait encore. Mais d'ailleurs, c'était marrant quand ils m'ont approché parce que ils m'ont présenté le contrat. J'ai dit, OK. Mais on ne l'a pas signé avant que je remette le manuscrit, en fait. Ils ne sont pas fous. C'est-à-dire qu'ils voulaient relire le manuscrit en se disant « Ok, il y a vraiment un truc derrière, maintenant on signe le contrat. » Tu vois, ça ne s'est pas fait comme ça.
Ouais, bah c'est super, super impressionnant, en tout cas. Vraiment, moi, je trouve que c'est impressionnant.
D'accord, bah, merci, merci. Je te souhaite de faire pareil avec ton Ikigai à toi.
Oui, je ne connaissais pas ce principe d'Ikigai. Il y a plein de choses que j'ai à apprendre aussi...
L'ikigai, si tu veux, je sais pas si tu l'as acheté ou pas le livre, mais si tu veux le lire, c'est dedans. Bah, si tu veux, tu peux. Parce que c'est quand même le truc qui coûte pas cher, tu vois, ça vaut 16,90€. Donc, le livre, c'est ça qui est bien. C'est que si tu trouves quelqu'un qui te parle, c'est bien de lire son livre, quoi. Tu vois, ouais. Ça peut être moi, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Ça peut être Steve Jobs, hein, tu vois, ou ça peut être Olivier Roland, tu sais, qui est sur Internet, ou je sais pas, n'importe quel mec qui te parle. Si le mec a écrit un livre, ça vaut le coup de le lire, tu vois. Après, si tu veux te renseigner sur l'ikigai, sur Penser Agir, il y a des articles hein, dessus aussi, où tu trouves sur Internet, il y a plein de trucs là-dessus. L'ikigai, c'est I-K-I-G-A-I. C'est vraiment fort comme concept. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on en parle sur Penser Agir. De toute façon, tu as toutes les infos gratuites. Le problème avec les infos gratuites, c'est qu'elles ne sont pas structurées, tu vois. Un livre, ça t'apporte une méthode, une structure, et ça fait le lien entre les différentes notions. Que si tu trouves l'ikigai, tu vois, séparément... Bah même si tu l'appliques, ça ne va pas t'apporter plus que ça si tu n'as pas la suite derrière. Mais c'est intéressant.
Bah écoute, Mathieu, ça m'a fait super plaisir de pouvoir parler avec toi. Je ne sais pas si tu as, toi, de ton côté, d'autres sujets que tu voulais aborder. Ou...
Non, bah non, j'étais là pour toi surtout, donc je suis très content. J'espère avoir répondu à tes questions.
Ouais, ça m'a fait super plaisir et c'était très intéressant de voir comment tu mets... tu rends concret ton ikigai, justement.
Ouais, avec différents exemples.
Ouais, c'est vraiment très intéressant. Je te remercie d'avoir participé, d'avoir partagé ton témoignage.
Avec plaisir.
Et je te souhaite le meilleur pour la suite.
Merci, je te souhaite aussi le meilleur à toi. Et puis, toutes les personnes qui sont intéressées, vous avez compris, je refais un petit instant promo. C'est décidé, je change de vie. C'est dans toutes les Fnac, toutes les librairies, c'est sur Amazon, Fnac.com, etc. Allez quand même l'acheter en librairie, c'est mieux. Faites vivre les petits commerces et allez voir des passionnés de lecture, ça vaut le coup. Voilà, c'est partout. Merci, merci Tony.
Merci à toi.